Les moulins à eau sont des éléments parfaitement intégrés à leur environnement. Quand vous arrivez comme ça en fond de vallée, il y a presque une fusion globale entre le fond de la vallée en tant qu'élément physique et puis l'aménagement qui est intégré. Mais il s'agit bien d'un aménagement majeur des vallées en raison de la réplication. Je crois qu'on a évoqué des effectifs ou des densités ce matin en Basse Normandie. Ce sont des densités que l'on peut généraliser. Alors bien sûr, il y a des endroits où il y en a plus, il y a des endroits où il y en a un peu moins, mais je crois que la densité moyenne pour l'ouest de la France de 1 moulin à eau par kilomètre de cours d'eau est relativement juste. Alors sur les terrains que moi j'ai principalement étudiés, au sud de la Loire, les vallées d'Anjou, les vallées vendéennes, des Deux-Sèvres, on pouvait avoir des densités allant jusqu'à 2 à 3 moulins par kilomètre de rivière. Après, cette densité d'équipement brut, elle peut être encore augmentée si l'on considère non plus les ouvrages hydrauliques, les sites, mais si l'on rentre dans le détail des partages d'eau, et donc si on intègre le nombre de roues. Je ne sais pas si c'est le cas en Basse-Normandie, je ne connaissais pas suffisamment le fonctionnement ici, mais dans les vallées sud-armoricaines, les sites étaient partagés en temps d'usage et en exploitant. Il peut y avoir 4, 5, 6 meuniers qui se partageaient des temps. C'était le cas? Voilà, deux roues et peut-être deux meuniers, ou même plus, ou davantage. Je ne sais pas si c'était des choses courantes ici. En tout cas, c'était des choses courantes sur les vallées que j'ai étudiées. Donc, aménagement majeur des vallées, aménagement sur le temps long, dont on a pu préciser, bien entendu, l'inscription temporelle en fonction des vallées. Alors, il y a eu une thèse longtemps défendue qui était liée un petit peu à l'article fondateur de Marc Bloch, hein, qui situait vraiment dans un Moyen-Âge florissant la multiplication des moulins à eau. Plus on a avancé, plus les historiens ont repris ce sujet, plus ils ont repoussé les dates d'implantation et les dates de saturation de certains réseaux hydrauliques en fonction des régions. On considère généralement qu'à l'époque carolingienne, certains réseaux étaient déjà saturés. En Touraine, par exemple. Donc, le moulin à eau, première façon de le saisir, c'est de le saisir en tant que machine. Ça a été abordé ce matin. Mais bien sûr, ça a aussi été une borne territoriale et un lieu de sociabilité. Le tableau que j'intègre à cette diapositive, un tableau peinture des paysages d'El Abbate, on est début 16e, c'est vraiment la période démarrage de la peinture de paysages, et dès le départ de cette période, on remarque l'intégration du motif moulin fréquemment dans des tableaux. Et il n'est pas anodin de voir qu'on représente ce type de lieu. Pas simplement pour l'aspect mécanique ou pour ses caractéristiques de machine, mais bien pour son inscription dans le fonctionnement des territoires et également pour la résonance, on va dire, culturelle, sociale et politique de ce type de lieu. Hein, sur cette scène, on voit bien sûr des scènes de travail, scènes de travail agricole, scènes de travail au moulin, mais aussi des scènes de détente, de repos, de récréation, de contemplation, d'observation de la scène, peut-être par des puissants, par les gens peut-être qui maîtrisent le lieu. Donc cette image-là, il faut la garder en tête pour ce que je vais vous raconter par la suite. C'est une image qui est fondatrice et qui permet de bien comprendre qu'il y a une inscription spatiale, mais aussi culturelle du moulin à eau dans nos sociétés occidentales, en particulier, qui est très très forte et qui dépasse donc le cadre strictement technique. Sur la droite de la diapositive, j'ai intégré une carte qui doit se baser sur l'enquête de la mainerie de 1809, qui permet d'avoir une idée du nombre de sites. Alors en noir, sur la partie noire, hein, des camemberts, ce sont les moulins à eau. Donc ça donne une idée du nombre de sites par département. C'est approximatif. En gros, c'est à peu près 100 000 moulins à eau à l'apogée de l'utilisation de l'énergie hydraulique, fin du 18e siècle, début 19e siècle. Donc on est sur cet ordre d'idées. On est bien dans le cadre de la mise en place d'un paysage productif hein, qui atteint certainement son expression la plus complète, fin 18e, début 19e, et puis 19e, vous avez les transformations connues qui ont déjà été évoquées ce matin pour certaines vallées, liées à l'industrialisation ou à, la, ou à des phénomènes liés de concentration. Donc, paysage productif, normatif. Normatif, pourquoi ? Puisque finalement, autour de ce lieu machine, va se développer toute une série de fonctions qui vont calibrer l'espace de fond de vallée et les paysages, selon une matrice hein, qui va se répliquer tous les kilomètres de rivière. Alors bien sûr, ce que je vous propose là, c'est une forme de modèle. On pourrait tout à fait le critiquer. Hein. C'est, évidemment, vous n'avez pas retrouvé exactement toutes les fonctions sur chacun des sites et en tout moment de leur existence. Seulement, c'est un modèle qui va peut-être nous permettre de comprendre aujourd'hui comment le moulin à eau que vous visitez est souvent un trompe-l'œil, mais aussi comment parfois, même s'il a été très transformé, il a conservé des caractéristiques ou des qualités qui sont liées à cet ancien modèle, à cet ancien système. Donc autour du moulin à eau, on va dire de la roue hein, et des systèmes de production, vous allez retrouver des lieux d'habitation, des éléments de bâtiments agricoles, des jardins, des bois, des prairies, des éléments, des dispositifs de franchissement, de pêcherie ou de traitement du lin et du chanvre. Très très vite, on voit que se compose un site qui est multifonctionnel. Le moulin à eau, je crois que c'est un des spécialistes anciens du moulin à eau, c'est un élément caméléon qui va être capable, grâce à cette multifonctionnalité, de changer de peau, d'être abandonné, réinvesti. Et ce cycle de réinvestissement que l'on observe aujourd'hui en fond de vallée, ou d'abandon, n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression, lorsqu'on se déplace en fond de vallée, qu'il y a un abandon, que cet abandon est finalement quelque chose de récent, qui marque les paysages de vallée. Il faudrait peut-être, à mon sens, reconsidérer un petit peu cette idée. Je vous ai dit tout à l'heure, on a un volume global de 100 000 moulins à eau, mais il n'y a pas de continuité absolue. Ces sites ont des cycles de vie plus ou moins longs, avec des projets économiques qui ont des... une durée très très variable. Donc, quand on parcourt les archives, simplement les archives du 19e, moi je me suis arrêté là globalement, on peut reconstituer ces trajectoires et repérer ces cycles de, on va dire, de prise et déprise. Donc la ruine, c'est pas quelque chose de nouveau en fond de vallée. Même si, bien entendu, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, on verra que elle peut s'exprimer dans certains endroits d'une manière plus spectaculaire. Donc, un système normatif où, au-delà de la production, va s'organiser des échanges, des circulations, mais aussi des manières d'habiter le lieu. D'habiter le lieu. Lieux qui vont aussi permettre de développer un certain nombre d'éléments de sociabilité qui, là encore, dépassent les fonctions de production. Ce sont des choses qui ont été particulièrement bien étudiées par l'historien ethnologue Claude Rival dans sa thèse publiée sur le couple Moulin-Meunier dès 1976. C'est une thèse rééditée en deux volumes au début des années 2000 qui constitue, à mon sens, un ouvrage important. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, tout est arrêté dans cette analyse du couple Moulin-Meunier, mais c'est une base qui, comme le modèle que je vous présente là, peut permettre ensuite de redéployer un certain nombre d'hypothèses ou de retester un certain nombre d'idées. Ce système, il est rendu solidaire par le fonctionnement hydraulique, notamment par d'autres éléments, mais le fonctionnement du moulin, c'est d'abord l'eau, c'est d'abord l'hydraulique. Et donc, cette solidarité des éléments, il faut bien la saisir pour comprendre l'évolution actuelle. La solidarité du système, elle était faite sur trois éléments fondamentaux qui sont le bief, le moulin et éventuellement, en fonction des systèmes, les ouvrages de retenue qu'on appelle chaussées ou déversoirs ou barrages en fonction des régions. Je vous l'ai dit, la fonction de production est bien sûr essentielle, mais il faut aussi parler des autres fonctions et des détournements du lieu. Ici, vous avez un exemple de détournement par le paysagement clissonnais, donc c'est très très spécifique à mon terrain d'étude, mais en fait j'ai pu retrouver d'autres exemples plus peut-être plus tardifs, mais de réutilisation du moulin dans des parcs et d'une manière précoce au cours du 19e siècle dans des parcs à l'anglaise. Donc on va extraire le moulin de sa fonction productive pour en faire un décor de parc qui va permettre la représentation picturale, etc. Donc en miroir, on a une intense artialisation du moulin qui se poursuit. Je vous l'avais indiqué tout à l'heure avec le tableau de Delabaté. Vous voyez que ce mouvement d'artialisation, finalement, il se poursuit d'une manière quasi continue jusqu'à aujourd'hui. Processus suivant sur mon terrain d'étude, c'est l'industrialisation. Ce processus-là, bien entendu, il n'a pas marqué toutes les vallées de la même façon. Par contre, lorsqu'il a été intense, lorsqu'il a eu cours, il a profondément transformé les systèmes en place. Je pense que les choses ont été bien étudiées en Normandie, hein, avec le cas, par exemple, de la verre ou du noireau. Je pense qu'il y a déjà eu des travaux sur l'industrialisation de ces vallées et les transformations paysagères importantes. Bien sûr, transformation avec l'implantation des grandes usines, mais aussi remaniement foncier, remaniement des circulations en fond de vallée, et des servitudes, etc. Ce 19e siècle, qui est le moment de l'industrialisation, est aussi le moment d'une certaine forme de mise en ordre. Mise en ordre par l'État, reprise en main des cours d'eau, y compris des cours d'eau de faible dimension, de modeste dimension, par les ingénieurs qui vont reformater les paysages et les façons de concevoir la gestion des sites. Donc on va normaliser la gestion hydraulique au cours du 19e siècle et on va surtout institutionnaliser des procédures juridiques de recours liés aux litiges qui sont générés par la proximité des sites, tout simplement. Donc ça, c'est des litiges déjà anciens qui existaient déjà avant le 19e siècle ou qui sont générés par le phénomène d'industrialisation. Industrialisation, donc le conflit classique de l'industrialisation, c'est le relèvement d'un ouvrage qui va ennoyer ou gêner le fonctionnement d'un ouvrage précédent. C'est l'agrandissement des voies d'eau qui va changer les conditions d'utilisation de l'eau sur une section de rivière, etc. Bon, ce sont des éléments classiques. Ennoiement de prairies. Donc au 19e siècle, on peut, par un effet de source, peut-être avoir le sentiment d'une explosion de la conflictualité, alors que le but des ingénieurs est tendu vers cette mise en ordre et vers l'exploitation la plus rationnelle possible des fonds de vallée. Il reste de cette période une très très grande quantité d'archives de l'eau, qui sont des trésors évidemment pour les chercheurs qui s'intéressent à l'histoire de ces paysages de vallée. Ce sont des archives qui ont souvent servi à des études d'inventaire. Par contre, ce que l'on constate, c'est dans la bibliographie, c'est que assez peu de travaux se sont intéressés en profondeur au dossier administratif. Quand je dis en profondeur, c'est-à-dire que souvent pour un site, on peut relever les documents cartographiques et les règlements d'eau qui permettent d'attester de l'existence, du type de fonctionnement. Mais par contre, on a associé également des correspondances entre ingénieurs et usiniers, des plaintes des usagers qui permettent de décrypter la vie sociale, la conflictualité, les rapports de force au niveau local, les rapports entre le local et l'administration à différentes échelles. Et tout cela reste encore à mener. Et c'est très riche. J'en profite pendant que je suis sur ces questions d'archives de l'eau pour dire que on a parfois le sentiment, quand on travaille sur les moulins à eau, que les rivières aménagées sont mieux connues au 19e siècle, grâce à ces archives de l'eau, que finalement les rivières des années 50, 60, 70, pour lesquelles on a une documentation mais qui est très éclatée, qui a été très peu travaillée. Donc les conflits liés à l'industrialisation, j'ai un petit peu anticipé, mais je reprends cette synthèse. C'est l'arrivée de nouveaux acteurs, souvent d'acteurs urbains. C'est la transformation des lieux et des accès, c'est les modifications hydrauliques, je vous l'ai dit. Et puis on a des conflits de saturation de réseau. Donc où il s'agit de partager le temps partager le temps d'usage. On a aussi des conflits de jalousie, hein, tout simplement, de concurrence exacerbée. Et puis des conflits de pouvoir qui sont déjà latents, souvent au XVIIIe siècle. Et puis, suite à cette phase assez intense, hein, qui est le XIXe siècle, ça paraît comme un apogée, alors que finalement les phénomènes de déprise sont parfois déjà enclenchés, on va glisser dans une phase de déprise extraordinaire. Alors d'habitude j'ai un petit graphique, mais là je l'ai pas intégré, un petit graphique qui représente l'évolution de des moulins meuniers, où on part de plus de 80 000 au début du 19e siècle, et où on arrive finalement jusqu'à 200, 150 moulins qui fonctionnent encore effectivement à l'eau et qui produisent de la farine panifiable. Donc on a cette chute qui est assez remarquable et qui commence dès finalement le début du 19e siècle, avec des processus de concentration très très puissants, des reconversions de moulins vers d'autres activités, et puis un processus qui est aussi remarquable au XXe siècle, qui est le recroquevillement, on va dire, des petits moulins meuniers sur la fonction de ferme, sur les fonctions agricoles. Alors, quelques exemples pour vous donner des indications sur ce processus. Sur la Sèvre nantaise, vous voyez que 23% des sites qui étaient présents au début du 19e siècle ont disparu, ou fin 18e siècle, ont totalement disparu. Il n'en reste que des traces qui peuvent être repérées seulement par un œil vraiment, vraiment entraîné. 12% des moulins sont en ruines visibles. 50% sont transformés en résidences et 15% sont bien conservés. Sur le Touet, les chiffres sont différents. Vous voyez que là, le taux de disparition a atteint 40%, avec 17% des moulins qui sont en ruine, donc une infrastructure qui a été beaucoup plus érodée, on va dire. 23% des moulins sont encore transformés en résidences et 20% des moulins sont bien conservés. Donc dans cette catégorie des moulins bien conservés, on pourrait classer ici le moulin dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisqu'il a conservé son aspect de moulin, ses mécanismes, sa roue, etc. Si vous voulez identifier les différentes catégories, voilà, la dernière, on pourrait classer le moulin dans celle-ci. Alors la déprise masque des processus de requalification qui sont puissants et anciens, bien entendu. Alors c'est peut-être connu, hein, pas, évidemment, mais on a des requalifications anciennes liées au développement des guinguettes, du canotage ou plus globalement des usages de loisirs. Finalement, le fait de réinvestir un moulin pour le transformer en lieu de sociabilité, en lieu commun ou en lieu d'accueil ou en lieu de détente, plus ou moins, d'une manière plus ou moins formalisée, ce sont des choses anciennes qui sont bien, et dont l'origine est bien datée. Je ne reviens pas sur ce point. Ensuite, on a des processus de transformation peut-être un peu plus visibles, qui sont des transformations techniques hydro-agricoles, qui vont concerner aussi bien le milieu urbain, pour des raisons de gestion hydraulique, que le milieu rural, où là, évidemment, associé aux actions importantes de remembrement, on a eu des opérations hydrauliques majeures qui ont parfois conduit à accélérer l'effacement des aménagements anciens ou leur transformation. La pêche de loisirs, que j'ai séparée de mes usages de loisirs, car elle va avoir une action sur la durée longue, et elle va avoir une action plus fine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le moulin est une bande territoriale. Eh bien, cet aspect bande territoriale, il va être ressaisi par l'usage pêche, puisque les sociétés de pêche qui se développent à partir de la fin du 19e et surtout au début du 20e siècle vont réinvestir ces sites hydrauliques et faire de ces moulins souvent des maillons essentiels dans la gestion des baux de pêche, des territoires de pêche. Contrôle des niveaux d'eau, limitation des lots de pêche, limite physique des lots de pêche, point d'accès à la rivière, lieu d'alvinage, etc. Lieu de concours de pêche. Par ailleurs, l'usage de la pêche va transformer la manière dont on va gérer l'eau, surtout sur les rivières à faible écoulement en sud armoricain, puisqu'on va privilégier le maintien de niveaux d'eau élevés pour permettre le développement de certains types de poissons d'eau calme, et donc pour privilégier des pêches posées, des pêches statiques, qui vont beaucoup se développer au cours du XXe siècle. On va aussi, en parallèle à cette, à ce développement de la pêche de loisirs posée sur site, développer une vision, on va dire, écologique du fonctionnement de la rivière. Le bon fonctionnement écologique de la rivière, c'est celui qui va permettre de conserver un niveau d'eau toujours haut et stable et qui va faire privilégier le passage de l'eau sur la retenue, provoquant cascade, chute d'eau, qu'on va considérer comme favorable à l'oxygénation de la rivière. Ce sont des idées qui sont toujours présentes, qu'on entend aujourd'hui dans les conflits liés au démantèlement de barrages. La question de l'oxygénation de la rivière par la chute d'eau au moulin est souvent avancée. Le canoë-kayak, là aussi, va jouer un rôle peut-être moins visible, hein, on le voit moins, sauf dans les cas où le plan d'eau est transformé véritablement en stade d'eau vive. Mais d'une manière fondamentale, les biefs sont aussi des supports d'une activité économique, au-delà de la simple activité de récréation. Puisque pour les clubs de loisirs, dans les rivières qui sont faiblement alimentées, le maintien de l'ouvrage va permettre le développement d'activités d'initiation kayak l'été, payantes, qui vont permettre de financer parfois des postes d'animateurs ou de développer des projets de développement, accueil sur le moulin, développement de concours, etc. Par ailleurs, le kayak va aussi produire une approche alternative de la rivière aménagée en recherchant l'attrait de la chute, l'attrait sportif pour les usagers les plus aguerris, et également, pour certains, la recherche de l'eau vive et donc des secteurs non aménagés. Enfin, processus qu'il ne faut pas négliger, et donc ne pas réduire la vallée à une vaste zone de déprise, c'est bien entendu la résidentialisation, la transformation de ces vallées en lieu de vie, en lieu de résidence principale ou secondaire. Alors les effets, c'est quoi? C'est souvent la transformation du moulin qui perd son apparence de moulin. Bien souvent, les organes hydrauliques sont comblés. La roue est parfois remise, mais simplement pour un aspect d'agrément. Alors, bien entendu, certains propriétaires souhaitent réarmer leur chute et réactiver leur moulin par la mise en place de turbines ou la mise en place d'une génératrice couplée à la roue. Mais dans la plupart des cas, hein, observez, pour les moulins transformés en résidence, la fonction hydraulique a été perdue par transformation, tout simplement pour isoler l'eau du moulin s'il est habité. La restauration du bâti peut être complémentaire. Des effets de clôture, donc là aussi, site ouvert, site qui était favorable aux circulations, aux échanges, ils vont être délimités. Hein. Le cupressus, le tuya va aussi trouver sa place en fond de vallée et borner les limites d'habitation, avec une rotation souvent assez élevée pour une partie du parc de résidence, lié à un phénomène d'enchantement des enchantements. C'est-à-dire qu'on est enchanté quand on découvre ce site. Vous l'avez tous été quand vous êtes arrivés, je pense, ce matin. Seulement, on découvre le site au moment de la retraite. Souvent, les gens ont fait un investissement ou héritent d'un site et pensent s'y installer, commencent des travaux. Et puis, le désenchantement, parfois, arrive dès l'hiver, par la crue, ou dès l'année suivante, par une série de contraintes liées à la cohabitation avec les usagers. Voilà, donc la matérialisation, je vous le disais, de cette fermeture, hein, de ces îlots résidentiels, parfois aussi pour des contraintes, des questions de responsabilité. Donc, pour vous donner une idée, sur les terrains que j'ai travaillés, c'est 65% de résidences principales, 20% de résidences secondaires, avec 15-20% en fonction des vallées de location de gîtes. Ce qu'on peut indiquer, c'est que souvent on a une première phase en fonction des vallées. On observe une temporalité dans le phénomène de résidentialisation avec une première phase de résidence secondaire qui deviennent fixes par la suite, qui ensuite, avec une rotation du parc ensuite assez variable en fonction des contraintes et des vallées. Puis dernier processus fort, c'est la redécouverte de ces paysages de fond de vallée et des ressources qui pouvaient apporté pour les petites communes rurales. Alors, il y a eu une thèse, hein, de Françoise Hardillet-Carras, Limoges, peut-être déjà un peu ancienne, mais qui mettait bien en avant pour les petites communes rurales, notamment dans les milieux ruraux à faible densité, la valeur refuge que pouvaient représenter les paysages de rivière et notamment les sites hydrauliques. Bon, c'est un poncif là, évidemment. Les vallées ont été support de processus de patrimonialisation important. Le site ici en est une illustration. Il y en a plein d'autres. Alors on va des sites qui ont des difficultés à vivre, mais qui sont portés, qui sont portés par un vrai projet collectif, en passant par des sites, par des projets privés, plus strictement privés, mais qui permettent quand même une certaine ouverture au public, à des petits lieux communs qui vont acquérir une renommée beaucoup plus importante en lien à la mise en place d'événements. Je pense par exemple au Moulin de Poupée en Vendée qui a donné son nom à un festival maintenant qui a une certaine réputation. Patrimonialisation des sites qui, elle, va avoir plusieurs effets. Donc c'est toujours l'activation des processus de restauration. D'un côté, les moulins, souvent restaurés par des particuliers, d'une manière très sélective par des communes ou des intercommunalités. Par contre, on va avoir une action beaucoup plus systématique de restauration des ouvrages hydrauliques, indépendamment des moulins, où le patrimoine va être souvent utilisé comme alibi, comme motivation pour emporter l'adhésion des financeurs, alors qu'en fait, souvent, la restauration des ouvrages hydrauliques était liée à la satisfaction d'usage que j'ai évoqué précédemment. Donc maintien de niveau d'eau pour la pêche, pour les loisirs, etc. Donc on voit bien, au fil de cette requalification progressive, que la vallée et ses paysages aménagés vont connaître une forme de tension entre une appropriation collective qui est quasiment historique, qui est liée au système peut-être initial et puis qui a évolué en avec les usages avec les processus de requalification, et puis ces processus d'appropriation individuelle liés à la résidentialisation en particulier. Et puis dernier point, suite à cette forte vague de patrimonialisation intense mais relativement courte, c'est milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Vous voyez, c'est une quinzaine d'années. Donc parfois, cette phase-là a été beaucoup plus courte sur certaines vallées. Parfois, c'est 3-4 ans en fonction des forces en présence, hein, des moyens, des collectivités locales, du patrimoine aussi à valoriser. Et suite à cette petite fenêtre patrimoniale très puissante, on a vu s'imposer une autre lecture, une autre interprétation des paysages de vallée depuis le début des années 2000, qui est une interprétation écologique. Où là, l'idée, c'est pour les collectivités qui sont chargées de mettre en œuvre les politiques de gestion de cours d'eau, de restaurer le fonctionnement écologique des cours d'eau. Donc là, on va changer totalement de focale. Et finalement, la patrimonialisation qui avait peut-être transformer les lieux, mais considérer finalement le moulin bien comme un lieu à valoriser à l'échelle du territoire local, va exploser face à cette nouvelle interprétation qui va plutôt considérer le site hydraulique comme un point, comme un obstacle, l'obstacle sur le réseau. Et donc là, on va réduire la grille de lecture, on va réduire fortement la grille de lecture que l'on peut avoir sur ces sites en réduisant le lieu à un point ou à un élément de rupture sur un réseau hydraulique. Donc la solution qui est la plus proposée par les financeurs des politiques publiques de gestion de cours d'eau, vous le savez désormais, c'est l'effacement des ouvrages, l'effacement ou l'aménagement drastique qui doit conduire à l'abaissement des niveaux d'eau, à la restauration des continuités écologiques et sédimentaires. Évidemment, ce sont des propositions qui heurtent fortement les usagers locaux et qui permettent à nous, chercheurs, d'aller sur ce terrain et de comprendre quel rapport ils entretiennent avec les lieux et quel rapport également, quel rôle ils jouent dans la décision et dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Pour conclure, j'aimerais vous rendre compte d'une manière un peu libre de nos travaux menés dans le cadre de Repaval auprès des propriétaires de ces sites hydrauliques. Donc on a d'une manière un peu systématique, enfin assez systématique sur deux vallées, la vallée du Léguer en Bretagne et la vallée du Clain, donc dans la Vienne, dans le département de la Vienne, interrogé, enquêté auprès des propriétaires de moulins. On a mené des entretiens qui s'inspirent d'une méthode biographique, mais qui ouvrent sur le rapport des usagers, donc des propriétaires, à leur environnement local et également à leur intégration dans la vie locale. Donc on a mené ces entretiens qui sont d'une durée comprise entre une heure et quart, on va dire, et deux heures, qui ont été pour la plupart enregistrés et qui sont tous retranscrits. Donc c'est un matériau important. Maintenant, on a plusieurs centaines de pages de texte à traiter. Donc ce que je vais vous dire là ne relève pas d'un traitement abouti, systématique, mais on va dire d'une lecture analytique simple, d'une lecture exploratoire de ce corpus d'entretien. Qu'est-ce que l'on retient? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qui habite ces fonds de vallée? Qui sont ces usagers? Comment vivent-ils les lieux? Comment le perçoivent-ils? Et comment sont-ils percutés par les différents types de processus et par les dernières politiques publiques? Donc, premièrement, le premier type, on va dire d'une manière un peu caricaturale, mais je vais commencer par là, c'est l'intégration à des lignées. Ce sont des héritages familiaux. Donc on retrouve encore des propriétaires qui sont fils ou filles de familles de meuniers et qui héritent de tout ou partie d'un site. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas le plus courant, c'est bien sûr le résident secondaire ou principal, donc extérieur, totalement extérieur à la vallée. Rien de surprenant à cela. Dans ces deux profils, on trouve un profil un peu intermédiaire qui est la personne qui, arrivant à la retraite, la personne, on va dire, de la région, mais pas forcément de la vallée, qui va rechercher un lieu pour être au calme, pour être tranquille. Et donc ça, c'est un profil qui est intéressant à étudier, puisque là, le rapport est on va dire, dégagé des questions d'héritage, de lignée, d'appartenance à une lignée et à une histoire familiale autour du site. Et il est aussi un peu dégagé du résident secondaire classique, parfois étranger. Et donc là, on a un profil un peu atypique qui est intéressant d'étudier. On cherchera à bien étudier. Donc le résident, on va dire, régional qui recherche un lieu d'appoint avec un travail à faire. Ce qui est commun généralement à ces trois types de propriétaires, c'est l'attachement fort, avec pour la plupart des cas une référence à l'histoire, que les propriétaires appartiennent eux-mêmes à une lignée ou non, ils sont attachés au site et revendiquent la patrimonialité de leur site, sans forcément d'ailleurs en connaître l'histoire. Parmi les propriétaires, il y a une catégorie aussi plus spécifique qui est la catégorie du propriétaire investi, engagé dans des associations de spécialistes et de propriétaires. Donc de spécialistes et de propriétaires de moulins. Ces gens investis le sont pour deux raisons. Soit ce sont des passionnés purs et simples du patrimoine et sont tout simplement investis dans les associations pour connaître, pour apprendre. Ils sont inscrits dans une forme de réseau de sociabilité et ils vivent leur passion sur le lieu de vie et en dehors, ou bien ils sont dans ces associations et ou par intérêt, puisque aujourd'hui les associations des Amis des Moulins sont aussi des associations de défense des propriétaires face peut-être à des politiques publiques qu'ils jugent agressives ou à des situations litigieuses vis-à-vis d'autres usagers. Que recherchent ces différents usagers? Pourquoi venir, pourquoi rester sur un moulin? Pourquoi habiter un moulin, finalement? Ce qui ressort, c'est que parfois, cette situation d'habiter au moulin est subie. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Notamment pour les gens qui ont hérité, Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de solution, et on est obligé d'entretenir ce patrimoine en assumant les contraintes, mais on sent bien que ces contraintes peuvent peser, contraintes financières, contraintes aussi liées aux conditions de vie au moulin, humidité, froid, isolement, faible luminosité, etc. Parfois, donc, le choix de vie au moulin est choisi, et bien choisi, et là, c'est le calme, c'est le moulin, pour sa fonction de refuge, qui va jouer un rôle moteur dans le choix du lieu de résidence. Le refuge est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, le travail à faire. Le travail pour restaurer un patrimoine, transmettre éventuellement. Donc, occuper la vie par le travail après le travail de salarié, souvent pour les retraités. L'isolement peut donc être subi ou choisi dans ces fonds de vallée. Il y a des situations très contrastées. Les situations sociales de ces propriétaires de moulins sont également très contrastées. Il y a très peu de situations moyennes. Soit on a des gens relativement pauvres, avec des lieux de vie délabrés, des conditions de chauffage, par exemple, qui sont très précaires. Ou au contraire, on a des gens, on va dire, plus aisés, riches, qui ont des moyens de développer des projets, qui ont les moyens d'entretenir le patrimoine, le bâti. Quand ils n'ont pas les moyens, finalement, on tombe dans ces cycles de rotation, de changement de propriété. Pour conclure, je termine là-dessus, comment ces propriétaires perçoivent-ils les politiques publiques? Mal, et d'autant plus qu'ils connaissent mal. Leur situation les met souvent parfois hors du fonctionnement de la vie locale, et quand ils sont saisis des questions d'aménagement de cours d'eau, ils le sont d'une manière peut-être parfois indélicate ou mal maîtrisée, ce qui fait qu'ils se sentent agressés et donc souvent peu enclins ensuite à participer à la construction du bien commun. On peut tout à fait utiliser ces moulins à eau comme indicateur du fonctionnement de petites sociétés locales pour gérer leur environnement. Comment on gère finalement les questions d'environnement à l'échelle locale? Finalement, le moulin peut être un... Les questions de conflit au moulin peuvent être un bon indicateur pour traiter ces questions. Voilà, je m'arrête là et puis je vous laisse poser des questions si vous souhaitez.